Oui, yay!
Super. C'est cool de vous voir depuis ce côté. Normalement, je suis quelque part là, mais c'est un honneur de me tenir devant vous. À chaque fois que j'ai une occasion de prendre un micro, d'adresser des gens, je sens que c'est un défi, mais en même temps, c'est une occasion de me rapprocher de Dieu. Parce que, ultimement, je ne veux pas que vous vous souveniez de tous les détails de ma vie, mais j'aimerais que vous puissiez partir avec quelque chose que Dieu a sur son cœur pour vous. Ça, c'est notre but en tant qu'enfant de Dieu, de glorifier Dieu. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai eu donc le thème de l'interculturel. Alors qu'on explore différents mais humains, on a eu l'occasion d'entendre toutes sortes de gens aussi d'autres églises. On a entendu des hommes, des femmes, mais l'interculturel, il y a aussi un aspect à explorer. Et je pense qu'il y a deux semaines, on a eu Anne qui venait de Allemagne, donc pays à côté du mien. Moi, j'ai grandi. Toute ma famille habite aux Pays-Bas, tout petit pays, loin d'ici. Et même en tant qu'enfant, l'idée de voyager me parlait. J'aimais d'aller à d'autres endroits et découvrir, voir comment la vie était. C'est quelque chose de moi, souvent, on commence à voir les paysages, mais tout de suite après, on goûte aux nourritures. Et là, c'est déjà une découverte. Même quand on passe à une autre région ou un autre pays, les choses sont juste un petit peu différentes, ou des fois très différentes. Mais c'est le fun de découvrir. Et donc, en tant qu'enfant, ça me plaisait de découvrir. Et souvent, je m'imaginais comment ça serait de vivre dans un autre pays. Par contre, j'aurais jamais pu penser que là, que je vivais déjà, ça fait presque 20 ans hors de mon pays. Donc, j'aurais jamais pu penser que la moitié de ma vie, je vivrais plus aux Pays-Bas, là où j'ai grandi, là où toute ma famille est restée. Donc, en 2002, c'est la première fois que je suis venu au Québec. Et c'était pour venir faire une formation avec Jeunesse en Mission. Et Jeunesse en Mission, c'est un contexte formidable parce qu'il y a des gens de partout. Sauf que ce n'est pas vraiment le Québec. C'est une petite sous-culture parce que c'est un centre avec des gens de partout. Donc, il y a des Québécois, mais il y a aussi des gens d'ailleurs. Mais c'était riche. C'était beau de pouvoir apprendre et expérimenter beaucoup de différences. En 2003, je suis revenu pour aider à encadrer une école. Et depuis 2007, Pauline et moi, on s'est installés ici, on est restés au Québec. Et quelle joie de vivre ici. Moi, j'aimais le fait qu'il y avait de l'espace. Le pays est tellement grand comparé au mien. Dans mon petit pays, il y a plus que 16 millions d'habitants. Ça veut dire que tout le monde a son petit carré. Et ici, on voit de l'espace. Ça fait du bien. Il y a des collines, des montagnes. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu aux Pays-Bas, mais on n'en a pas. On est fiers de notre montagne de 160 mètres. Donc, c'est le seul. J'aime qu'il y a vraiment les saisons. On a quatre saisons. Là, on trouve que le printemps, c'est assez court. J'ai compris que c'est environ deux semaines entre l'hiver et le début de l'été. Mais quand même, chez moi, on a environ une semaine d'hiver. L'hiver avec de la neige, quand on a un petit peu de gel, un petit peu de neige, tout le monde est enthousiaste, mais ça ne dure pas. Souvent, la même journée, tout est fondu. Donc, d'être ici, j'ai eu ma dose. J'ai dit à Dieu, oui, une semaine est trop courte, mais six mois, c'est trop long, Seigneur. Anyway, je suis quand même très reconnaissant pour le Québec. Donc, c'est une chose d'aller à un autre endroit et de découvrir. Quand on va en vacances, vous avez sûrement expérimenté, on va ailleurs, on dit « Ah, mais c'est tellement beau, c'est tellement cool, c'est tellement bon. » Mais d'émigrer, c'est une autre chose. Là, on touche plus à la culture de notre propre culture et la culture des autres. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de ça, les cultures et comment ça fonctionne. Je me souviens la première fois que je suis allé au Mexique. Pauline et moi, on venait de commencer à fréquenter. Et je me disais, probablement c'est elle, hein, la fille que je vais épouser, avec qui je vais vivre le reste de ma vie. Et alors qu'on entrait au Mexique, chaque fois que je rencontrais quelque chose que je ne connaissais pas, je me disais, est-ce que je pourrais vivre avec ça pour le reste de ma vie? Parce que ça se peut. Donc, il y avait de la nourriture, bien sûr. Et chez nous, on ne cuisine pas très épicé, hein, mes parents. Donc, au Mexique, je dis, ouh, j'ai entendu que c'est épicé. Comment ça va aller? Mais je pense que l'amour a sûrement aidé, mais j'arrivais jusqu'au moment que j'ai rencontré mes beaux-frères. Ils ont dit, regarde, on a des piments de tout petits. Sont vraiment jolis. Tu peux les manger comme ça. Oui, tu peux les manger comme ça. Et transpirer. Anyway. Donc, chaque chose que je rencontrais au Mexique, c'était quelque chose que je découvrais. Et je me disais, est-ce que je pourrais vivre avec ça? Est-ce que je peux vraiment l'adopter, l'accepter pour vivre ça? Et je dois dire, j'étais motivé. Et ce n'est pas toujours le cas quand on interagit avec une autre culture qu'on est motivé. Des fois, on a des appréhensions. C'est différent. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je n'aime pas ça? Donc, ça peut avoir un effet sur la manière qu'on juge ce qu'on rencontre. Anyway, j'étais au Mexique et je voulais apprendre l'espagnol. Donc, j'ai appris comment dire « bonne nuit ». Donc, je l'ai testé avec ma belle-mère. Donc, j'ai dit, « Buenas noches ». Et elle m'a regardé, elle a souri, elle a dit, « Gracias, merci », et elle a continué. J'ai dit, je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'ai demandé à Pauline, « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Elle a dit, « T'as des belles fesses. » « Buenas noches », ça c'est « Bonne nuit ».« Buenas noches », c'est « Des belles fesses ». Hey, j'en parle aujourd'hui, ça veut dire que j'ai bien appris la différence. Et il y avait quelqu'un avec nous qui parlait bien le français et l'anglais. Et donc, à la table, au petit déjeuner, il s'est dit, passe-moi le beurre, on va l'essayer en espagnol. Pásame el burro. Les gens ont regardé, ils ont donné des grimaces. Apparemment, el burro, c'est pas le beurre, c'est l'âne. Passe-moi l'âne. Donc non, burro, c'est quelque chose de différent. Donc on rend compte qu'avec les langues, avec les cultures, des fois on fait des faux pas. Des fois on essaye des choses, c'est pas grave. Souvent on rit et on passe au-dessus. Et c'est rare que quand on vient avec un bon cœur et qu'on essaye quelque chose, que ça soit mal pris ou qu'on ferme les portes à la relation. Donc, connecter avec des autres cultures, c'est une richesse. On peut apprendre des choses qu'on n'aurait jamais apprises si on serait resté chez soi ou si on serait resté juste entre les gens de la même famille ou le même peuple. Donc, comme je disais avant, soit quand on est confronté, soit on a un esprit ouvert avec le goût de découvrir, avec le désir d'apprendre, ou on a quelque chose d'appréhension. Et donc, je parlais du Mexique, on a eu notre mariage d'abord aux Pays-Bas et quelques semaines plus tard au Mexique. Donc, on a fait le mariage civil aux Pays-Bas et le mariage pour l'Église et la famille au Mexique. Et ma famille, ils ont pu venir. C'était un miracle, mais c'est une autre histoire. Ils sont venus, et comme je disais, ma mère, elle disait, « Ouh, l'épicé, je ne sais pas trop. » Et en fait, toute la famille, ils ont dit, ouh, j'espère que ça va passer. Et en fait, ils ont tous eu le diarrhée. Ils sont venus une semaine, ils sont tombés malades. Par contre, moi, j'avais je pense pas que je suis plus fort ou mon système est différent. Par contre, j'étais motivé. Je veux pouvoir vivre ici, manger ce que les gens mangent ici. Et moi, je suis pas tombé malade. Sauf quelques mois plus tard, quand j'ai mangé à Burger King. Donc, je me dis, mais ça, je connaissais déjà depuis chez moi. Mais tout ce que j'ai mangé de Mexicain, ça a passé. C'est quand même beau, hein? Moi, je vois ça comme un impact que notre attitude peut avoir sur si ça va bien ou si ça ne va pas. Donc, par rapport à ces appréhensions, on va en parler un peu plus plus tard, mais j'aimerais parler du début des cultures. Là, on va sauter un peu dans la Bible. Et comme on a entendu avec Emily, le camp de jeunesse la semaine passée, on a regardé Genèse, le début de la création où Dieu a tout fait. Et en Genèse 1, verset 27, ça dit que Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Donc il y a ce qui est souligné, « Multipliez-vous et remplissez la terre. » Dieu a dit très clairement depuis le début à les êtres humains, « C'est ça que je veux pour vous. Multipliez-vous et remplissez la terre. » Ben, quand on continue de lire, on voit que tout ne va pas super bien. Hein? Et on arrive à l'histoire de Noé. Et Noé est l'histoire où Dieu recommence, mais quand même avec quelqu'un qui lui est fidèle. Et à la fin de ce déluge, quand Noé et sa famille sortent du bateau, Dieu répète, il dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose que Dieu trouve important. Donc, on dirait deux fois, peut-être qu'ils ont compris, mais on arrive à Genèse 11. C'est l'histoire de Babel, hein, le tour de Babel. Donc, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ici établirent. Puis dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Okay, c'est intéressant. Hein? Nous ne serons pas disséminés. Donc Dieu avait dit... remplissez la terre, mais ils disent, on veut rester ensemble. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit le projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Alors, descendons et brouillons là leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. Donc les gens de Shinéar sont partis en petits groupes qui se comprenaient encore et ils sont allés s'installer un peu partout dans le monde. Ils ont chacun développé leurs coutumes, leurs traditions, leurs valeurs et ils ont leurs histoires. Donc malgré les échecs de l'homme, le Seigneur a fait une promesse gracieuse. Il dit, « Aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. » Donc, là, il ajoute un aspect. Il parle de la gloire. Hein? Il dit, « Moi, je veux, c'est mon objectif, que la terre sera remplie de ma gloire. » Et la gloire de Dieu est constituée des qualités invisibles, du caractère ou des attributs de Dieu, affichée de manière visible. Elle se reflète bien sûr dans la création, dans l'humanité, comme on a été créé à l'image de Dieu. Mais elle devient vraiment visible alors que le Saint-Esprit est en nous. En Apocalypse, on voit la terre sera finalement remplie d'une multitude innombrable de rachetés. Et en Habacuc, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Donc, là où Dieu règne avec sa gloire, ce c'est le royaume que Jean-Baptiste et Jésus ont annoncé. Donc, ça, c'est un peu contexte. Donc, là, avec cette histoire de Babel, on pourrait dire, qu'est-ce que Dieu pense des cultures, des nations, des langues? Et est-ce seulement un produit à part, ou un sous-produit du fait que les gens ont été rebelles au commandement de Dieu? Mais on voit non. On voit, si on creuse un peu dans la Bible, que Dieu aime les cultures, il aime les nations, il aime les langues. Et, en Matthieu 18, où Jésus donne les ordres aux disciples avant d'aller au ciel, il dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, à tous les peuples, il disait, c'est pas seulement pour le peuple juif, c'est pour tous les peuples. Et quand on voit l'histoire en Actes, il y a Paul qui est à Athènes. Il parle avec les sages de la ville qui veulent savoir qu'est-ce que tu racontes. Et lui, il explique, à partir d'un seul homme, Dieu a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à les chercher et à les trouver. Donc, on voit ici que Dieu est souverain au-dessus de tout ce qui se passe. Et on a entendu ce matin, Michael parler de la Russie et l'Ukraine. On prie. Et on prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Pour être franc, je ne sais pas toujours exactement comment prier, mais je prie surtout que sa volonté soit faite parce que je crois qu'il est souverain. C'est lui qui établit les règnes et il établit aussi le fin de chaque règne. Donc, pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu invitait les hommes à le chercher, à le trouver. Donc, ça, c'est un encouragement pour moi de dire, hey, tous les peuples ont été choisis et donné leur temps et leur espace parce que Dieu veut qu'on le cherche. Quand on le cherche, il veut se laisser trouver. Et qu'on va tout à la fin, quand on va à le livre d'Apocalypse, Apocalypse 7, ça dit, après tout ça, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Donc, devant le trône... Allô? Oui, vous m'entendez? Donc, devant le trône, à la fin de l'histoire, il y aura des gens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Dieu veut des gens de tous les arrière-plans qui le connaissent, qui fassent partie de sa famille et qui donnent couleur à cette foule. Donc, les nations, les cultures sont voulues de Dieu et on peut s'y réjouir. Mais quand on parle de culture, de quoi on discute? J'ai regardé pour une définition. Et j'ai trouvé un que je trouve qui fit bien. Ça dit, la culture est l'ensemble des coutumes, des traditions et des valeurs d'une société ou d'une communauté, telle qu'un groupe ethnique ou une nation. Donc, il y a des coutumes, des traditions, des valeurs, et ça dicte ce qu'ils trouvent important, comment ils vivent, et ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Donc, on peut célébrer les cultures. Moi, je suis Hollandais, comme je disais, et même si je suis loin de mon pays, il y a des aspects de mon pays que j'aime beaucoup. J'aimerais vous montrer quelques photos. Une chose que j'aime beaucoup, c'est les tulipes et les moulins. En fait, c'est un peu le moment, en ce moment, pour les tulipes là-bas. Et il y a des champs comme ça, avec toutes les couleurs. C'est magnifique. Il y a des gens qui viennent de partout pour voir ça. Ce que j'aime aussi, c'est les fromages. Donc, les fromages, ici, on dit gouda, mais chez nous, on dit gouda. Gouda, un edam. Hein, vous connaissez peut-être. Il y a aussi les peintres fameux. Donc, il y a eu Rembrandt. Il y a Vincent van Gogh. Goch, comme on le dit chez nous. Jan Vermeer. Et Mondrian, Piet Mondrian. Donc, c'est juste quelques, hein, parce que je ne peux pas mettre beaucoup plus et encore voir ce qu'il y a sur chaque peinture. Donc, plusieurs peintres où je dis, waouh, c'est vraiment beau, c'est de la qualité, je suis fier de ça. Il y a aussi, je ne sais pas si tout le monde connecte avec ça, mais il y a des DJs qui sont connus, qui jouent partout dans le monde, c'est des artistes comme Tiesto et Martin Garrix, Armin van Buuren, ce sont des gens qui amènent des foules à danser, à avoir du fun ensemble. Ensuite, il y a des bières, Heineken, Amstel, Grolsch. Grolsch, c'est mon préféré. C'est vraiment bon. Ça vient d'une heure de où ma famille habite en plus. Et je suis tellement content. Je pensais que ça serait seulement vendu aux Pays-Bas, mais on le trouve partout. Ici, au Mexique, je pense même plus loin. Donc, ça, c'est quelque chose quand même. Quand je pense au sport, il y a... Yeah, le soccer est vraiment le sport numéro un aux Pays-Bas, populaire chez tout le monde. Et quand on a des matchs, tout le monde s'habille en orange. Oui, orange. Ça, c'est parce que notre famille royale, leur nom de famille, c'est Van Oranje, d'orange. Donc, à cause de ça, même si notre drapeau est rouge, blanc et bleu, tout le monde se met en orange. Et pendant le Coupe du Monde, il faut venir aux Pays-Bas une fois. Des rues en complet, tout est orange. Orange, c'est vraiment impressionnant. On le vit tous ensemble. À part de ça, un autre sport où on est fort, c'est le patinage de vitesse. Je trouvais intéressant avec les Olympiques qu'on a eu cet hiver, qu'au début, il y avait beaucoup de domaines de patinage. Et tout de suite, on a eu beaucoup de médailles d'or. Je dis, oh, on est les plus forts du monde. Mais après, là, quand il n'y avait plus le patinage, là, on est rendu un peu plus dans la moyenne. Mais à chaque année, on a des gagnants, des gens qui dépassent encore la vitesse, les records de vitesse. Donc, c'est aussi un domaine où on est forts, les Hollandais. En dernier, ce que j'aimerais vous montrer, ça, c'est la famille royale, notre roi, Willem-Alexander, avec son épouse Maxima, pas à côté de lui, mais une plus loin, et leurs trois filles. Et ils n'ont pas de pouvoir politique vraiment, c'est plus cérémoniel. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils sont conscients de leur influence. Ce qu'ils font et ce qu'ils vivent, ce qu'ils disent, a une influence sur les gens qu'ils rencontrent, au pays et aussi hors du pays. Donc, ils prennent leur rôle sérieux. Et même, donc, Willem-Alexandre qui a grandi protestant et Maxima qui vient d'Argentine, qui a grandi catholique, ils ont, à leur mariage en 2002, fait un culte où il y avait et un pasteur et un prêtre. Et ensemble, ils ont officié le mariage. Et je trouvais ça tellement beau. Un exemple, ils ont dit, pour le peuple hollandais, pour nous, Dieu est important. Et oui, il y a des différences, mais ensemble, on peut avancer. Donc, je trouve qu'ils sont un bon exemple. Et oui, j'en suis fier. Mais comme chaque individu a été impacté par la chute, nos sociétés ont aussi été impactées par la chute. Je ne sais pas si vous pouvez le reconnaître, pensez peut-être à à la société que vous connaissez? Est-ce que tout est parfait? Est-ce que tout est beau? Si on est honnête, il y a des belles choses, on peut le reconnaître, on peut être fier de ça, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Hein? Dans mon pays, une des choses que je me dis, oh, je ne suis vraiment pas fier, c'est par exemple la prostitution est légalisée comme un emploi normal. Il faut payer les taxes, tu peux avoir une retraite à la fin, tu dis, mais... Anyway. Et c'est un pays très libéral. Donc, dans beaucoup d'autres domaines des valeurs, ils ont fait des compromis, comme le marijuana, ça a été un des premiers pays à légaliser ça, l'euthanasie, l'avortement, le mariage entre deux personnes du même sexe. Donc, il y a eu beaucoup de premières dans mon pays. Je me dis, c'est bon d'être zélé, mais pour les bonnes choses. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces décisions. Et cette idée de compromis, c'est vraiment un style que le pays a adopté aussi au niveau politique. Donc, ça veut dire que le compromis veut dire, toi, tu penses ça, moi, je pense ça, on va se retrouver au milieu. Donc, moi, je diminue un peu, toi, tu diminues un peu et on va se retrouver au milieu. Il y a certaines choses pour lesquelles c'est super. Sauf que si on parle de la sainteté et le péché, par exemple, si tu as un seau de peinture blanc et tu mets juste une tasse de peinture noire, c'est plus le blanc. Tu vois? Il y a certaines choses où tu ne peux pas faire des compromis, où il faut être radical. Et je vois que notre pays a abandonné ça un peu. Donc, il y a d'autres choses, hein, mais je ne veux pas vous déprimer. Donc, de reconnaître que nos cultures ont des belles choses, et même, j'ose dire, qu'il y a des belles choses qui reflètent la beauté de Dieu. Il y a des choses dans nos cultures que Dieu a mis en nous et on le reflète encore. Il y a des belles choses qu'on démontre aux autres. Mais il y a aussi des choses qui ont été affectées par le péché. Paul, quand il était à Athènes, dans son discours aux sages, en fait, lui, il disait, voilà, tel est Dieu. Mais il a aussi dit, je vois dans votre culture, même s'il y a beaucoup d'idoles, je vois que vous avez des belles choses. Il a cité leur poète, par exemple. Il dit, je vois que vous êtes très religieux. Il a donné des compliments. Mais il a aussi confronté ce qui n'était pas vrai, ce qui n'était pas juste. Donc, ça a été vraiment sa manière d'interagir avec des gens pour amener le point de vue de Dieu. Donc, c'est quelque chose comme nous, on peut aussi faire, hein, en connexion avec les gens autour de nous, de reconnaître, d'avoir des yeux ouverts pour ce qui est beau, ce qui est admirable dans les gens, mais en même temps, de pas dire, bon, on accepte tout. Hein? Si on n'est pas d'accord avec certaines choses, on peut être pas d'accord. Donc, la culture. La culture peut être un facteur qui lie les gens. Hein? Quand on a les choses en commun, ça nous rapproche. Surtout quand on parle des choses importantes comme des valeurs. Mais ça peut aussi être quelque chose qui divise. Si on n'a pas les mêmes valeurs, ça peut amener un certain écart. Et ce n'est pas seulement au niveau national. Quand on a fait notre préparation au mariage, on nous racontait que, en fait, même chaque famille a une culture différente. Hein? Donc, même si on est du même pays, même village, même ville, on peut avoir des coutumes, des manières de faire qui sont différentes que nos voisins. Et donc, quand on devient, quand on se marie, quand on devient un, on vient avec notre point de voir les choses et l'autre vient avec sa manière. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à discuter. Il faut bien communiquer. Comme pour les individus, il y a les langages d'amour. Vous avez déjà entendu parler de ça? Donc, c'est une manière... Il y a cinq langages qui sont identifiés. Et souvent, on tombe dans un ou deux. Quand on nous aime de telle manière, on se sent vraiment aimé et valorisé. Donc, il y a les paroles valorisantes. quelqu'un qui nous donne un compliment. Il y a les moments de qualité, donc un temps ensemble qui est dédié. Il y a les cadeaux, les services rendus, quelqu'un qui fait la vaisselle pour l'autre, le toucher physique. Donc, pour certains, il y a, par exemple, les cadeaux. Si on donne un cadeau, ça fait que, oh wow, tu n'as pas seulement pensé à moi, tu as investi ou tu as cherché pour quelque chose pour moi. Ça, hein, ça booste, ça ding, 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 ça remplit mon réservoir d'amour. Et on a tous besoin de se sentir aimé régulièrement. Par contre, hein, les personnes de cadeaux, si l'autre dit « Oh, t'es tellement beau ou t'es tellement bon », il dit « Merci, c'est pas désagréable, mais ça va pas le remplir de la même manière que sa langue dominante, hein, où il dit « Wow, je me sens vraiment aimé comme ça. » Et on est tous un peu différents. Hein, c'est quelque chose qu'on peut découvrir. Quelle est ma langue d'amour, mon langage d'amour, et quel est le langage d'amour des membres de ma famille, par exemple. Comment est-ce que je peux les aimer? Parce que la manière que je me sens aimé, ça se peut que l'autre se sent aimé d'une autre manière. Donc, quelque chose. Par contre, comme on a ça pour les individus, nos cultures ont aussi certaines valeurs, ou certaines, ouais, des valeurs qu'on trouve vraiment importantes. Ça ne veut pas dire que des autres valeurs ne sont pas importantes, mais il y a certains qui sont vraiment, on s'accroche à ça. C'est important. Par exemple, le respect ou l'intégrité, la compétence, la bienveillance, la loyauté. C'est tous des valeurs. Et dans certaines cultures, c'est plus, une est plus appréciée ou plus importante qu'une autre. Et j'aimerais donner un exemple. Il y a quelqu'un d'une culture qui apprécie que tout soit propre, que tout soit rangé et organisé. Et pour lui, c'est vraiment une expression du respect qu'on range pour l'autre. Donc, cette personne partage un espace commun avec quelqu'un d'une autre culture. Et dans cette culture, la grande valeur est le partage. La générosité, l'inclusion, être ensemble, tout le monde est bien. Pour cette personne, l'organisation est importante, c'est quand même une valeur, mais pas autant que le partage. Donc le premier fait tout ce qu'il peut pour honorer l'autre en nettoyant, en rangeant, à chaque fois qu'il est passé, il met tout à sa place. C'est sa manière d'honorer l'autre. Par contre, le partage n'est pas si important pour lui. Pour le deuxième, voulant honorer l'autre, il exprime à plusieurs reprises, « Hey, si tu as besoin de quelque chose, tu peux prendre mes affaires, ça ne me dérange pas. » Donc, il est vraiment généreux. Il dit, « Prends mes affaires, tu peux l'utiliser. » Et même si cette personne range, il n'est pas si rigoureux que le premier. Entre ces deux personnes, il peut y avoir une friction. Celui qui range ne se sent pas honoré quand il trouve le lieu commun moins propre qu'il aurait laissé. Et celui qui partage se sent rejeté quand l'autre refuse son invitation de partage et en plus que l'autre se plaint car il n'avait pas laissé le lieu assez propre. Vous voyez que pour les deux, ils ont des bonnes intentions, ils ont un acte d'amour envers l'autre, mais qui est manqué. On ne le reconnaît pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver entre les cultures. Souvent, les gens dans les cultures différentes ont des motivations bonnes, mais on ne le reconnaît pas. Parce que ce qui fait que nous jugeons... Nous ne connaissons pas les intentions des autres, et donc nous jugeons et interprétons les actions des autres alors qu'on connaît l'intention de cœur de nous-mêmes. Et on ne peut pas le savoir sans en parler avec l'autre, avec une ouverture. Ça, c'est juste un aspect. J'ai une liste qui décrit plusieurs éléments qui peuvent être différents entre les cultures. Donc, entre les cultures, il peut y avoir une communication directe. Moi, je viens d'une culture assez directe. Si tu trouves quelque chose, tu le dis. Si tu ne le dis pas, tu ne le trouves pas. C'est vraiment ça. Tu n'as pas à essayer de comprendre est-ce qu'il veut dire quelque chose de plus. Hein? Ça, c'est facile parce que tu sais vraiment ce que la personne pense. Sauf que ça peut être très direct, très sec, sans prendre en compte comment l'autre se sent. Communication indirecte est plus difficile de savoir qu'est-ce que la personne veut vraiment dire, parce que pour cette deuxième catégorie, la relation est tellement importante. On ne veut pas que l'autre soit embarrassé. On veut garder une bonne atmosphère, on veut garder une bonne relation. Et on voit que si tu as quelqu'un qui est très direct, qui parle à quelqu'un qui est indirect, ça choque. Par contre, si la personne indirecte parle, la personne qui est directe, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui arrive. Un autre aspect, c'est l'individualisme versus l'orientation de groupe. Surtout dans les pays froids, on a la tendance à valoriser l'individualisme. Donc, moi, j'ai mon opinion. Moi, je pense ça. Ce que moi, je pense est le plus important. Donc, chaque personne a le droit de parler, alors que des cultures orientation de groupe, ils disent, mais ce n'est pas seulement important que moi, je pense. Qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que ma tribu, qu'est-ce que mon village pense? Qu'est-ce qu'on pense ensemble? Et ça sera véhiculé par une personne. Donc, tu vois que ça peut aussi amener une différence, une difficulté en communication, où l'individualiste dit, mais qu'est-ce que tu penses? Et l'autre dit, mais ça ne dépend pas juste de moi. La valeur de la vie privée et la valeur de l'inclusion. On parlait un peu de ça avant. Donc, la vie privée, c'est quand même quelque chose de très important dans ma culture, je pense ici pour la plupart. Mais il y a des cultures où c'est beaucoup plus pouvoir être ensemble. C'est le groupe qui me protège, c'est le groupe qui me définit. Et ensemble, on est protégé et on est inclus. Orienté vers le temps ou orienté vers l'événement. Donc ça, c'est peut-être un peu plus dur à expliquer. Orienté vers le temps, ça veut dire qu'à une heure, notre activité commence. Donc tout le monde se présente à une heure. Orienté vers l'événement, ça peut être, disons, si à une heure, c'est le mariage qui commence, ça veut dire qu'à une heure, le culte ne commence pas. À une heure, tout le monde arrive, on va commencer à mettre la salle, on va préparer les fleurs, on va tout mettre, et tout le monde se met beau. Donc, c'est toute une autre approche à comment on s'organise avec le temps. Mais vous voyez aussi le potentiel pour des frustrations. Quelqu'un qui pense que le culte commence à une heure et l'autre qui arrive encore dans ses vêtements de tous les jours avec son costard à côté et qui va préparer d'abord. Hein, c'est toute une autre approche. Il y en a qui sont structurés dans l'approche. C'est des gens qui planifient, qui ont des calendriers qui vont quelques mois, des fois même une année d'avance. Et il y a d'autres qui répondent à ce que la vie apporte. Hein? Le premier est structuré, maître de son horaire. Le deuxième peut répondre à des occasions que l'autre ne peut pas parce qu'il a déjà tout booké. Il y a aussi l'aspect d'hospitalité. Dans toutes les cultures, l'hospitalité est importante. Il n'y a pas une où tu dis non, ce n'est pas important. Sauf que la manière qu'on s'organise est différente. Par exemple, chez nous, ma mère, elle a tout un frigo tout petit et ça va très bien. Elle fait de l'épicerie tous les deux jours. Mais si, disons, à quatre, on pourrait juste débarquer, dire hello, on vient souper. Ça va le stresser. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez dans son frigo. elle s'organise. Quand elle sait, mercredi, ils vont arriver, mardi, elle va tout acheter, elle va ranger la maison, elle s'organise pour qu'il n'y ait plus rien dans son calendrier. Et elle a du temps dédié avec nous mercredi de, disons, 6h et 8h. Hein? Il y a d'autres cultures où ce n'est pas comme ça. Il y aura toujours assez. Hein? J'ai vu ça, par exemple, au Mexique. Au Mexique, les frigos sont comme ça. Il y a toujours de la place. Si quelqu'un arrive et ce n'est pas planifié, ce n'est pas grave. Il peut manger avec nous, il peut rester dormir s'il veut. Donc, c'est une inclusion que je trouve vraiment beau, mais que j'ai dû apprendre. D'être prêt à accueillir, d'être prêt de passer du temps avec les gens. Mais ça se peut qu'on ne va pas tout le temps s'asseoir. Peut-être on va faire la vaisselle ensemble parce qu'il y a beaucoup de vaisselle. Donc, tu vois, c'est une autre approche d'hospitalité, une autre manière de montrer à l'autre que je veux passer du temps avec toi et je valorise ta présence. Donc, comment... Je vais sauter un petit peu. Donc, comme je disais, on vit dans un monde déchu. Donc, ça veut dire que nos cultures, certaines choses sont juste culturelles, d'autres manières de faire, mais il y a aussi des attitudes qui sont colorées par le péché. Et donc, ça peut être des motivés de crainte, de l'orgueil, de l'égoïsme. Donc, ça peut être quand même difficile quand on rencontre une autre culture, quelqu'un d'une autre culture, de gauger comment je deal avec ça, comment réagir. Et pour ça, je me suis dit, ce serait cool de regarder à la Bible. 1 Corinthiens 13, ça dit l'amour en toute occasion. Il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Donc, ça veut dire que l'amour, si on vient avec une approche d'amour, on n'a pas à trop craindre c'est quoi la motivation de l'autre. On peut l'accueillir et on va voir ce qui sort. En Philippiens 4, verset 8, c'est un verset que j'aime beaucoup, ça dit « Frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Donc, cherchons à saisir ce qui est noble et juste et pur, etc., dans les gens et dans les cultures que nous côtoyons. On risque d'entrevoir une facette de la gloire de Dieu. » Et il y avait juste une chose que je pensais encore. En Galates, Paul dit, « Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. » Donc, je me suis dit, « Hey, c'est quelque chose, ça. On est tous pareils. » Mais ce n'est pas pour vous. Comme Michael disait, on est tous de la même famille. En Ukraine, en Russie, ici, on est tous de la même famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de culture, qu'il n'y a plus de langue, qu'il n'y a plus de tradition, qu'il n'y a plus d'histoire. Donc, aussi dans le temps de Paul, ces différences n'étaient pas disparues. Sauf que, si on est lié par l'amour, nous cherchons à nous honorer mutuellement, et à apprendre les uns des autres et à nous entraider là où nous le pouvons et là où nous reconnaissons que nous sommes humains ou égaux, mais différentes. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ça, c'est vraiment une clé pour nous. D'avoir cet amour, l'amour que Dieu veut déverser en nous à chaque jour, à chaque fois. Et à cet amour qu'on a les uns pour les autres, le monde va voir qu'on est les disciples de Jésus. Donc, c'est un défi de travailler avec des gens, des personnes, des cultures différentes, des langues différentes, des valeurs différentes, mais ça vaut vraiment la peine. Si on surmonte les différences, Au fur et à mesure que nous apprenons les uns des autres, nous enrichissons mutuellement notre compréhension de la gloire de Dieu. Donc, je peux mettre la dernière photo. Tous ensemble, nous reflétons la gloire de Dieu, comme les multiples facettes d'un diamant reflètent la lumière. Laissons briller cette lumière. C'est la gloire de Dieu qui remplit la terre. Amen.